Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. Alain Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Twilight Zone.
Retrouvez-moi tous les mercredis dans Previously, le podcast de Télé-Loisirs, pour plonger dans une série phare que non seulement je vous raconte, mais dont je vous livre aussi des coulisses.
You unlock this door with the key of imagination. Beyond it is another dimension.
Vous ouvrez ce podcast avec la clé de l'imagination. À l'intérieur, vous allez vivre dans une autre dimension. Une dimension du son et de l'esprit. Vous vous déplacez en direction d'une collection complète de 156 épisodes en noir et blanc qui seront bientôt disponibles en coffret Blu-ray après avoir, des années durant, été diffusés sur TF1, France 3 et une myriade de chaînes câblées. Vous venez de traverser la quatrième dimension.
You've crossed over into the Twilight Zone.
How do you do?
Vous êtes Rod Serling. Vous êtes très exactement Rodman Edward Serling. Vous êtes né le 25 décembre 1924 de Esther et Sam Serling. Vous direz même, à propos de votre date de naissance, que j'étais un présent de Noël offert sans papier cadeau. Vous avez un frère, Bob, 7 ans plus âgé que vous. Tous les deux, vous allez passer du temps à lire des histoires incroyables issues des Pulp, ces magazines recueils de nouvelles. Amazing Stories, Astounding Stories et Weird Tales, par exemple. Vous êtes un gamin extraverti, espiègle, dynamique et gentil. À l'époque, vous obtenez de bonnes notes en tout, sauf en dessin. Vous décrochez un petit job dans un magasin de jouets, vous avez 12 ans. À l'armée, vous vous engagez chez les parachutistes et vous vous mettez à la boxe, histoire de vous faire un peu d'argent de poche. Vous allez gagner 17 matchs, mais vous tombez KO, le nez cassé, au 18e. Fin de votre carrière de boxeur. Sur le front, sur l'île de Leyte, vous avez été blessé au poignet et au genou par des éclats d'obus suite à un tir de mortier. La blessure au genou sera présente toute votre vie et s'ouvre d'ailleurs assez fréquemment. Après les tout derniers jours de mon service, je portais un regard très amer et détaché sur tout et sur rien. Je crois que je me suis alors mis à écrire pour que ça me sorte du cœur et des tripes, dites-vous. Tout au long de votre vie, vos nuits seront hantées par les cauchemars de la guerre. À 21 ans, vous rentrez chez vous. Vous vous mariez à la jeune Carole le 31 juillet 1948. Lors des week-ends, ou bien en soirée de retour de votre travail, vous écrivez dès que vous en avez l'opportunité. Vous tapez frénétiquement avec deux doigts sur votre machine à écrire. À 24 ans, un de vos scripts a remporté un prix à l'émission de radio Dr. Christian. Vivre un rêve raconte l'histoire d'un boxeur professionnel atteint d'une leucémie incurable qui entend aider un jeune talent et le mettre sur la voie du succès. Vous allez alors faire connaissance d'un autre lauréat, un jeune auteur, comme vous, un certain Earl Hamner, avec qui vous allez rester amis toute votre vie et qui écrira et produira par la suite une série à succès intitulée The Waltons, la famille des collines, ainsi qu'une autre saga télévisée Falcon Crest. En 1950, il va d'ailleurs vous céder sa place en tant qu'auteur de la radio WLW de Cincinnati, car il voulait faire un break pour écrire un roman. Et vous, le soir venu, une fois rentré de cette radio, vous vous attablez devant votre machine à écrire pour rédiger vos propres scripts. Beaucoup, évidemment, seront rejetés, c'est le travail qui veut ça, mais vous en vendrez deux à la série radio Grand Central Station et un autre au programme de la chaîne de télé NBC, Stars Over Hollywood. La télévision est un média qui prend de l'ampleur à cette époque, c'était le bon moment pour se trouver au bon endroit. Vous allez finir par faire le grand saut, renoncer à votre job alimentaire à la radio et devenir un auteur freelance. Kraft Television Theater, Studio One et Lux Video Theater, trois anthologies dramatiques parmi les plus grandes du moment, vont vous acheter vos premières histoires. Et par la suite, Lux va vous en acheter 11 autres d'un seul coup. Il existait toujours une certaine confusion de la part de tous ceux qui suivaient ces séries dramatiques. C'était un peu comme du théâtre à la télévision. L'équipe technique la tournait de la même façon. Par conséquent, les auteurs de ces séries souhaitaient obtenir au crédit le titre de dramaturge, ce qui leur a été accordé. Toutefois, c'était pas acquis partout. Paddy Chayefsky a qualifié ses pièces télévisées d'objets des plus éphémères connus de l'homme. Ces programmes, en effet, ne connaissaient aucune longévité. Celle-ci s'étalait depuis la production, dans les bureaux du studio, jusqu'à la diffusion, en direct. Le véritable progrès pour les pièces télévisées résidait dans le fait qu'elles avaient des thématiques. Le médium commençait à montrer une vraie connaissance de ses atouts, De ses forces, nous assistions à l'émergence d'une nouvelle forme d'art. On pouvait alors constater que les séries télévisées commençaient à proposer des dramaturgies remplies de profondeur et des personnages toujours plus élaborés. Leurs intrigues et leurs héros prenaient une véritable consistance. Les histoires avaient quelque chose à dire. Le 12 janvier 1955 est diffusé Patterns, le 72e script que vous avez écrit en 1954. Une histoire qui se déroule dans le milieu d'une entreprise et raconte les manigances et stratégies pour évincer et remplacer le vice-président de la compagnie. Le lendemain de la diffusion de cette dramatique dans le cadre du Kraft Television Theater, vous ouvrez le New York Times et vous lisez la critique suivante.
En termes d'écriture, de prestations et de réalisation, Patterns restera comme l'un des événements clés de l'évolution du médium télévisuel. Pour cette narration puissante et abrupte, pour la force de ses personnages et sa richesse dramaturgique, le travail de Monsieur Serling est un triomphe créatif dont il peut pleinement se prévaloir.
Vous venez tout juste de déménager, donc personne n'a votre nouveau numéro de téléphone. Et pourtant, une minute après la diffusion de l'épisode à la télévision, votre téléphone a commencé à sonner. Et il n'a plus cessé de sonner depuis. Il y a deux voies qui conduisent l'auteur au succès. L'une est un très long chemin, la consolidation d'un travail de qualité reconnu sur le long terme. L'autre voie est le succès du jour au lendemain, pour ainsi dire, qui repose sur quelques pages qui auront su capter l'émotion et l'imagination du public et des critiques. Patterns est de celle-ci. C'est arrivé sur les écrans comme par mégarde, sans prévenir, mais ça vous a projeté sur le devant de la scène. C'était une entrée en matière fabuleuse. Deux semaines après, vous recevez 23 offres fermes de scénarios télé, 3 de films, et vous remportez votre premier Emmy Award. En 1956, Playhouse 90 va diffuser un de vos très nombreux scénarios, Requiem for an Heavyweight, Requiem pour un champion. L'histoire d'un champion de boxe qui subit la pitoyable fin de sa carrière. Jack Palance en est l'interprète. Là encore, le succès est absolument faramineux. Cependant, vous souffrez beaucoup de l'omniprésence du sponsor sur vos scénarios et de la frilosité des diffuseurs dès que les sujets que vous souhaitez aborder sont un tant soit peu sujet à controverse. Pourtant, comme vous le dites, le rôle des auteurs est d'ébranler la conscience du public. Ils se doivent d'avoir une position, un point de vue. L'auteur doit percevoir les arts comme autant de vecteurs de critique sociale. Il doit s'en tenir aux problèmes de son temps. Cette ingérence des sponsors qui dénature vos œuvres prend des proportions absolument délirantes. Vous l'évoquez ouvertement dans des interviews. Une dramatique, Jugement à Nuremberg. Je pense que c'était un des épisodes les mieux faits, les mieux tournés de l'année dans Studio 90. Si vous souvenez bien, il y est question de chambre à gaz. Mais le dialogue a été supprimé. Il n'est pas venu à l'esprit de ses censeurs que le gaz n'avait strictement aucun rapport avec celui utilisé par les réfrigérateurs que vendait le sponsor. Et il ne voulait pas associer l'horreur de l'Allemagne nazie avec les appareils propres et chromés qu'il vendait pour la cuisine. Voilà l'exemple de l'ingérence d'un sponsor qui va tellement au-delà de toute logique, de tout bon goût. Voilà contre quoi je me révolte. Car en effet, vous êtes graduellement devenu le jeune scénariste en colère de la télévision. Alors, pour contrer cela et raconter des histoires qui vous tiennent à cœur, vous allez utiliser un stratagème, un paravent. Vous allez détourner l'attention des censeurs, des sponsors, des journalistes, de tout le monde, mais pas des spectateurs. Vous allez d'abord tester le processus avec une dramatique, The Time Element, pour l'anthologie Westinghouse des élus Playhouse. Il est question d'un retour dans le passé, d'un homme qui tente de convaincre les gens de Pearl Harbor qu'ils vont être attaqués par l'armée japonaise. Devant le succès obtenu par cet épisode, la chaîne CBS devient un peu moins frileuse. Et puis, il y a aussi votre réputation qui est déjà très importante. D'avoir une série régulière hebdomadaire avec vous à sa tête, c'est franchement du pain béni. Ça pourrait être à propos d'un funambule, ça serait pareil. On vous fait confiance. Et puis ensuite, il y a les producteurs de Westinghouse des élus Playhouse qui insistent pour que la série se fasse. Les deux responsables, William Self et Bill Dozier, le futur créateur de la série Batman, vont alors vous commander un pilote. Vous allez donc leur écrire The Happy Place, une histoire dans un monde futur où les gens sont exterminés dès qu'ils dépassent l'âge de 60 ans. Un peu comme on le fera plus tard avec l'âge de cristal, mais en abaissant l'âge quand même. Le personnage principal avait falsifié son âge pour échapper ainsi à la mort, mais il était dénoncé par son petit-fils. Dozier et Self pensent que c'est un peu trop sombre pour un pilote qui est censé convaincre des sponsors et un diffuseur. Vous allez donc leur écrire une autre histoire, Where is Everybody, avec Earl Holliman en amnésique, perdu dans une ville sans habitants, sans savoir qui il est et ce qu'il y fait. À la toute fin, il y a un twist, un rebondissement. En fait, il se trouve depuis le début dans un caisson d'isolation sensorielle pour une expérience. Tourné en 9 jours, pour un énorme budget de $75,000, ce pilote convainc tout le monde. Grâce aussi à la musique de Bernard Herrmann, le très grand compositeur dont on connaît déjà les partitions dans des films d'Hitchcock, dans Citizen Kane ou dans Le jour où la Terre s'arrêta. Par contre, ce qui ne convainc absolument pas, c'est la narration d'introduction.
There is a sixth dimension beyond that which is known to man.
Non seulement la sixième dimension, là. C'est quoi les cinq autres? On ne connaît pas. C'est voilà. Mais le narrateur était Westbrook Van Voorhis, un narrateur déjà très connu pour les feuilletons radiophoniques qu'il racontait, sauf que là, son ton bien trop dramatique ne correspond pas du tout au côté mystérieux de la série. Alors, on pense et on contacte Orson Welles. Mais ses prétentions financières sont bien trop importantes. Finalement, vous allez enregistrer le texte vous-même.
There is a fifth dimension beyond that which is known to man. It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity. It is the middle ground between light and shadow, between science and superstition, and it lies between the pit of man's fears and the summit of his knowledge. This is the dimension of imagination. It is an area which we call the Twilight Zone.
Ah oui, vous avez inventé le titre, la Twilight Zone. Ensuite, vous avez appris que ce terme existait bel et bien. C'est employé par les militaires de l'Air Force quand ils se posent au petit matin. C'est quand même un grand hasard. Hein? Et puis vous allez présenter la série de la façon suivante. Ce que vous allez voir, c'est une série intitulée « La quatrième dimension ». C'est une série un peu spéciale. Les gens regardent généralement la télévision pour se divertir. Et c'est ce que l'on cherche à faire. Notre but est de divertir. Cette série est le rêve de tout scénariste, parce que nous sommes persuadés que le public sera toujours réceptif et regardera une histoire bien racontée. Quitte à vous paraître immodeste, je ne veux pas chercher à minimiser la qualité de cette future série, mais je vais vous dire ce que j'entends par « série très spéciale ». Vous allez créer alors votre propre structure, Cayuga Productions, pour avoir la mainmise sur la série. Vous êtes constamment impliqué dans la moindre réécriture, la moindre modification, et vous avez 50% des droits qui vous reviennent. Vous engagez d'ailleurs à écrire 80% des scénarios de cette première saison. Buckhorn était en charge de la production quotidienne, des plannings de tournage, du casting, de la post-prod, du mixage, enfin bref. Mais vous avez quand même le dernier mot. Chaque matin, vous levez très tôt pour travailler sur vos scénarios. Jusqu'alors, vous les écriviez à la machine à écrire, mais il s'avère que vous imaginez plus vite que vous ne pouvez taper. Donc maintenant, vous utilisez un dictaphone. Quand le temps est clément, vous dictez ainsi vos scripts depuis le bord de votre piscine, ce qui vous permet de parfaire votre bronzage. Vers 13h, vous avez terminé d'écrire. Vous allez donc au studio, à Culver City, où vous allez réécrire le scénario, trouver des scènes alternatives, regarder les rushs de la veille, tout cela jusqu'à tard dans la soirée. Chaque épisode bénéficie de 3 jours pour être tourné, 3 jours précédés par une journée de répétition. C'était un planning extrêmement généreux pour une série de 30 minutes. En louant les studios de la MGM, donc en bénéficiant de toute leur infrastructure en termes de construction, de backlot, d'accessoires et d'ateliers, Bruce Houston avait fait le bon choix. Il envoyait donc un signal fort à toute la communauté des réalisateurs, des interprètes et des scénaristes. Twilight Zone n'allait pas être une série au rabais. Vous allez aussi bénéficier des scénarios de deux génies. Richard Matheson qui avait écrit le scénario de L'homme qui devint minuscule et Charles Beaumont qui écrivit Les 7 visages du docteur Lao. Bon, tout ne se passe pas parfaitement. Un tournage en plein désert est particulièrement insupportable. L'équipe est rapatriée au studio de la MGM, à mi-chemin du tournage. Et pour un autre épisode, l'acteur principal, Paul Douglas, semble avoir de grosses difficultés. Est-ce que sa réputation de grand buveur l'a rattrapé? En fait, 2 jours après la fin du tournage, il décède d'un problème coronarien. Le 2 octobre 1959, la Twilight Zone démarre sur les écrans américains. Vous avez déjà mis en boîte, avec Bruce Houghton et les différents réalisateurs, Jack Smith, Robert Parrish, près de 20 épisodes, et les tournages continuent. Si les premières audiences ne sont pas faramineuses, les critiques sont, elles, dithyrambiques. CBS tient donc une série de prestige. Quelques semaines plus tard, il tiendra aussi un simili-succès, enfin un demi-succès, on va dire, parce que la série réunit quelques 20 millions de spectateurs. Quant aux histoires de cette première saison, je vous laisse présenter la première d'entre elles. Le solitaire est l'histoire d'un homme condamné à vivre une vie solitaire. Il est détenu sur un astéroïde désertique dans l'espace. Et cet homme succombe lentement à un cauchemar de solitude. Il subit la désintégration de son esprit et de son corps, car les êtres humains ont désespérément besoin de compagnie. Un fonctionnaire bienveillant va alors lui envoyer une grande boîte rectangulaire contenant une machine, un robot qui a la forme d'une femme, un robot qui parle et agit comme un être humain, un robot qui pense comme un être humain. Je me contenterai de vous dire que la relation entre un homme et une femme en plastique dotée d'un cœur artificiel sera une expérience déroutante. En ce qui concerne la relation physiologique qui unit ces deux êtres, homme et femme, et ce qu'ils font ensemble, tout est possible. Alors, asseyez-vous tranquillement. Faites donc votre première incursion dans la quatrième dimension. Un des tout premiers épisodes sera aussi un des plus personnels pour vous. Walking Distance, l'histoire d'un homme qui se retrouve dans son propre passé, dans son enfance. Ce sera aussi le premier épisode de pure fantasy, clairement fantastique, car ce saut dans le passé n'est pas expliqué. Et le thème du voyage dans le temps, dans le passé, sera repris constamment dans la série. L'épisode The Hitchhiker, qui est célèbre, met en scène une femme qui croit sans cesse sur sa route le même autostoppeur encore et encore. Et dans Time Enough At Last, Burgess Meredith est enfin ravi quand une catastrophe nucléaire à laquelle il a survécu, dans le coffre de la banque où il travaille, lui donne la chance d'avoir tout le temps pour lire enfin les livres qu'il adore. Sauf qu'il va casser ses lunettes. Roddy McDowell sera un astronaute, surpris par l'accueil bienveillant des Martiens, avant de se rendre compte qu'ils l'ont enfermé dans un zoo. Et la mise en scène absolument étonnante de Third from the Sun nous laisse à penser que les trois personnes qui quittent secrètement la planète où ils sont pour échapper à un holocauste nucléaire ne sont pas exactement ce que l'on pense. Enfin, vous allez imaginer The After Hours avec une Anne Francis, la Anne Francis de Forbidden Planet, une Anne Francis seule dans un grand magasin après sa fermeture, menacée par des mannequins qui sont dans le grand magasin. Mais surtout, vous écrivez « Ce Monster Are You on Maple Street », une fable sur les préjugés dissimulés à travers une histoire d'invasion extraterrestre dans un quartier frappé par des coupures électriques et qui éveille les soupçons entre voisins et la méfiance entre eux. Tous ces efforts vont être récompensés. Un Emmy Award vous tombe dans les mains, le Emmy Award du meilleur scénariste. À partir de la saison 2, un grand changement survient. Jusqu'alors, on entendait votre voix et on ne voyait pas l'image. Uniquement dans les bandes annonces de l'épisode de la semaine prochaine. Mais maintenant, on vous demande d'intervenir dans l'épisode, à l'image, au début de chaque histoire. Alors là, ça vous terrifie totalement. Vous faites votre possible pour ne pas paniquer. Mais seul vous et votre blanchisseuse, en charge de nettoyer les chemises que vous aurez portées, savent à quel point vous transpirez devant la caméra. Mais d'apparaître va vous amener une notoriété encore plus grande, comme l'écrira par la suite votre fille, Carol Serling.
Les gens se souviennent tous de cet homme en costume noir, se tenant au centre d'un décor à l'éclairage sombre et étrange, marchant lentement à travers un studio de la MGM, cigarette à la main, s'exprimant d'une voix sévère et solennelle, introduisant l'épisode de la semaine, entonnant sa mise en garde avec gravité quant à l'espèce humaine, son destin ou même l'univers.
Mais d'apparaître à l'image ne vous fait pas oublier pour autant l'écriture. Vous allez ainsi donner naissance à un chef-d'œuvre, l'épisode Eye of the Beholder, portant sur les préjugés, l'apparence et le respect de la différence. Le tour de force est de ne pas montrer le visage des protagonistes durant tout l'épisode. Les médecins qui tentent d'opérer la jeune Janet pour lui redonner une apparence de beauté sont toujours dans l'ombre, dissimulés par un objet, par quelque chose, jusqu'au final. On voit que Janet est une très belle jeune femme dans un monde peuplé de gens aux faciès simiesques. La réalisation est de Douglas Eyes et les maquillages spéciaux de William Tuttle, le spécialiste des effets spéciaux qui créa les Morlocks dans le film « La machine à explorer le temps ». La semaine suivante, Richard Madson va confronter Bill Shatner à une machine à prédire l'avenir un petit peu trop précise et directive. L'épisode s'appelle Nick of Time. Et puis ensuite, Charles Beaumont révélera que l'homme prisonnier dans une cellule au fin fond d'une abbaye est ni plus ni moins que le diable en personne. L'épisode s'appelle The Rolling Man. Et puisque vous parlez de tour de force, en voici un autre. Un épisode absolument mythique. Écrit par Richard Matheson et interprété par Agnès Morwid, l'actrice de Citizen Kane, quelques années avant qu'elle ne devienne Endora dans Ma sorcière bien-aimée. L'épisode s'appelle The Invaders. Ici, elle n'a pas une ligne de dialogue. La fermière, apparemment muette, doit lutter contre de minuscules envahisseurs extraterrestres qui se sont posés sur le toit de sa ferme. La tension et la force dramatique de cet épisode va crescendo jusqu'à un twist final, avec en plus une musique extraordinaire de Jerry Goldsmith. Et la saison se termine avec The Obsolete Man, une fable écrite par Rod Serling sur un état totalitaire du futur. Sacrée saison, hein ? Et pourtant, lors de cette saison, justement, pour réduire un peu le budget de production, qui était particulièrement élevé, 6 épisodes vont être tournés non pas sur film 35 mm, mais en vidéo, selon la technique des dramatiques que vous avez bien connue et qui était répandue pour les sitcoms d'ailleurs, avec plusieurs caméras et puis une régie qui fait le mix final. C'est aussi durant cette saison que le générique de Bernard Herrmann a été, et vous ne savez même pas pourquoi, définitivement remplacé par une musique composée par un Français, Marius Constant. Sauf que Marius Constant n'est même pas au courant que sa musique devient le générique de la quatrième dimension. Il avait, à l'origine, composé plusieurs morceaux pour la sonothèque de la CBS et de ses programmes radio et télé. Il n'a donc même pas reçu de royalties pour ce qui était devenu un générique. Parce que ce générique a été fait à partir de 2 morceaux qu'il avait composés. Le premier, les notes de guitare. Et un autre, un peu plus court, qui lui est collé derrière. Marius Constant est décédé en 2004. En France, le journal Le Monde, pas plus que Libération, dans leur nécrologie, ne mentionne cette musique, pourtant iconique. Quand la saison 3 commence, vous en êtes à 47 scénarios. Et là, vous allez en abattre 13 de plus. Dire que la fatigue commence à se faire sentir est un doux euphémisme. Par contre, le casting, lui, il s'étoffe avec des noms d'acteurs et d'actrices qui deviendront de futures grandes stars. Dans cette saison, vous avez Robert Redford, Elizabeth Montgomery, Charles Bronson, Lee Marvin, Buster Keaton, Peter Falk. Vous allez tout de même écrire dans cette saison des épisodes absolument inoubliables. Entre autres, Five Characters in Search of an Exit, où une danseuse, un joueur de cornemuse, un clown, un militaire et un clochard cherchent à sortir d'une pièce circulaire sans avoir le moindre souvenir de ce qu'ils y font. Vous allez ensuite écrire l'arrivée d'extraterrestres dans To Serve Man. Des extraterrestres qui se proposent d'emmener les terriens sur leur planète pour découvrir au dernier moment que le livre des aliens, Comment servir l'homme,
Mr. Chambers, don't get on that ship! Rest of the book, To Serve Man, it's a cookbook!
En 1962, le sponsor principal de la série se retire. Elle prend donc fin au 102e épisode. Votre producteur, Bruce Houghton, accepte un contrat auprès d'une maison de production. Vous allez, vous et votre famille, partir pour Yellow Springs et vous allez devenir enseignant à l'université d'Antioche. Sauf que, CBS se ravise, reprogramme la série, lui donne un format d'une heure plutôt qu'une demi-heure. Vous allez donc revenir et mener les deux activités de front, enseignant l'art dramatique à la télévision et écrivant et supervisant les scénarios de la Twilight Zone. Vous allez aussi écrire des scénarios pour le cinéma, comme le film « 7 jours en mai » de John Frankenheimer avec Burt Lancaster, Ava Gardner et Kirk Douglas. Quand vous rendez à Los Angeles, en coup de vent, c'est pour foncer au studio de la MGM, tourner toutes vos introductions et vos conclusions, toutes les promos des épisodes à venir, tout d'un coup. Cette saison comprend des épisodes extrêmement intéressants, mais force est de constater que le format établi dans les précédentes, à savoir un argument choc, un développement et surtout, ce qui fait la quintessence de la quatrième dimension, un rebondissement final, s'accorde assez mal avec le format d'une heure qui réclame un peu plus d'histoire, un peu plus d'aventure, de rebondissement et d'avancée. Comme l'audience ne double pas avec la durée de diffusion, la cinquième saison de la série revient à sa demi-heure initiale. La lassitude se fait cependant très fortement sentir, votre attention n'est plus autant focalisée sur la série. Cependant, elle va comporter un épisode très au-dessus du lot, le fameux « cauchemar à 20 000 pieds », le cauchemar que vit William Shatner en avion, en plein vol, quand il croit voir un Gremlins griffer les ailes. Là encore, pour atteindre son équilibre budgétaire en fin de saison, William Frug, le nouveau producteur de la série, fait l'acquisition d'un court-métrage français, « La rivière du Hibou », un court-métrage écrit et réalisé par Robert Enrico, le réalisateur du « Vieux fusil », d'après un récit d'Ambrose Bierce. Sans dialogue, avec une conclusion purement fantastique et typique de la série, le court-métrage, qui remporte un Oscar, met en scène un soldat américain en 1862 qui échappe à la pendaison. Enfin, du moins le croit-on. Nous sommes fin janvier 1964. Le président de la CBS, James Aubrey, dira « On a largement dépassé les budgets bien trop souvent et l'audimat n'est pas suffisamment bon ». Il révélera aussi qu'il en a, et je le cite, « ras-le-bol de cette série ». La quatrième dimension s'achèvera donc en juin et ne sera pas renouvelée. Sur ses 156 épisodes, 92 ont été écrits par vous. Vous avez 39 ans. Vous direz « On a connu certains échecs cuisants pour quelques épisodes, mais il y en a d'autres dont je suis très fier d'avoir participé. Elle se termine sans que j'aie eu besoin de me courber ni de satisfaire une quelconque requête qui m'aurait été imposée. La chaîne concurrente va alors vous proposer une nouvelle série du même type. Elle va l'appeler Witches, Warlocks and Werewolves, sorcières, sorciers et loups-garous. C'est censé vous plaire, car c'est le nom d'un recueil de nouvelles que vous avez édité. Mais vous répliquez avec un projet un peu différent. Rod Serling's Wax Museum, où chacune des figures de cire d'un immense château lancera une nouvelle histoire fantastique. Et finalement, le projet ne débouche sur rien. Vous allez devenir le président de l'Académie américaine des arts et de la science télévisuelle et vous y modifierez profondément les Emmy Awards qui seront, grâce à vous, dorénavant remis par catégorie, scénario, réalisation, interprétation, etc. En 1965, vous allez écrire un western pour la télévision, un western un peu particulier, sur l'honneur, avec Lloyd Bridges en vétéran de la guerre civile. Tellement particulier qu'il ne séduira pas le public. En 1966, un téléfilm que vous avez écrit à propos d'une bombe placée dans un avion donne naissance à des vocations chez les trolleurs de l'époque. Vous en voudrez longtemps d'avoir suscité de tels actes chez des esprits visiblement dérangés. En 67, vous allez adapter pour le grand écran un roman de Pierre Boulle, l'auteur du pont de la rivière Kouai. Le film, de Franklin Schaffner, aura pour nom « La planète des singes ». Et si tout votre traitement n'est pas intégralement retenu, ils vont cependant conserver l'incroyable scène finale, le twist, le choc absolu, un twist à la Twilight Zone.
You maniacs! You blew it up! Damn you!
Nous sommes en 1969, où vous allez écrire le premier épisode d'une nouvelle série complètement différente, The New People, une sorte de Sa Majesté les Mouches, avec les rescapés d'un crash d'avion forcé de recréer une communauté sur une île déserte.
A cross-section of American college kids, isolated on an island test site in the South Pacific.
C'est Ron Spelling qui produit la série, et comme sa précédente, The Mod Squad, il veut l'orienter jeune, hip et branché. Bon, il veut dire que la série n'ira pas très très loin. Cette même année, vous allez aussi ressusciter votre Wax Museum. Vous vous souvenez là, le projet que vous aviez? Et vous allez en faire en fait une galerie d'art avec chaque tableau qui serait symbolique d'une nouvelle histoire fantastique et surnaturelle. Le téléfilm initial, avec une formidable histoire mettant en scène John Crawford et un tout jeune réalisateur qui fait ses premières armes, un certain Steven Spielberg, fait une audience record. Une autre histoire de ce même téléfilm traite d'un sujet qui vous est cher, l'Holocauste, les atrocités nazies et leurs conséquences. Vous allez donc accepter quand on vous commande une série sur la même base. La série s'appellera Night Galloway. Sauf que vous avez beau écrire des épisodes et y apparaître pour les présenter, vous n'en êtes pas le producteur, donc vous en perdez le contrôle. Même si Night Gallery contient de formidables histoires, vous dites publiquement que je voulais une série qui se distingue, qui se démarque, avec des épisodes qui ont quelque chose à dire. Je n'ai aucun intérêt pour les séries qui jouent purement et simplement sur le suspense, sans qu'aucun message ou second degré ne passe. Mais pour être parfaitement honnête, vous reconnaissez quand même que un des épisodes que vous avez écrit, The Tearing Down Tim Riley's Bar, vous a valu une nomination pour les Emmy Awards et fait partie de vos très grandes fiertés de scénariste. Vous le mentionnez très souvent. Bon, une petite parenthèse en 76. Vous allez écrire le pilote d'une série qui ne se fera pas, mais lequel film existe, lui, bel et bien. Ça s'appelle The Time Travelers. C'est produit par Irwin Allen, le producteur de Voyage au fond des mers et d'Au cœur du temps. Et il s'agissait quasiment d'une nouvelle version de cette dernière série, Au cœur du temps, avec des gens qui vont dans le passé. Attiré par des montants absolument mirobolants, vous allez accepter de faire des spots de pub. C'est complètement ironique parce que la pub, c'était votre ennemi au début de votre carrière de scénariste. Enfin, votre voix est devenue tellement familière que vous allez aussi servir de narrateur à la série documentaire « L'Odyssée sous-marine de l'équipe Cousteau ». Et vous allez en faire de même de façon bien plus discrète à quelques longs-métrages, par exemple. Prenons un exemple. C'est vous que l'on entend au tout début du film de Brian De Palma, « Phantom of the Paradise ».
Swan. He has no other name. His past is a mystery. But his work is already a legend.
Le film date de 1974. À l'époque, un jeune homme d'à peine 15 ans à Paris l'a vu déjà 3 fois de suite. Il continuera des années plus tard à le voir encore, encore et encore, découvrant à chaque fois de nouveaux détails qui lui avaient échappé. C'est sans doute son film préféré de toute l'histoire du cinéma. Et puis, la semaine dernière, il découvrira que c'est Rod Serling qui en a fait la narration. Et c'est incroyablement ironique parce que cet admirateur va être celui qui, 10 ans plus tard, va sélectionner et faire acheter la série La Quatrième Dimension pour la télévision française. Sans même connaître, à l'époque, le lien entre son film favori et la série qu'il va contribuer à populariser en France. En mai 1975, vous avez une crise cardiaque. Un mois plus tard, vous allez décéder sur la table d'opération, alors que l'on tente un nouveau pontage. Nous sommes le 28 juin 1975, au 8e étage du Strong Memorial Hospital à Rochester, dans l'État de New York. Vous avez 50 ans. Vous fumiez jusqu'à 3 paquets de cigarettes par jour. La cigarette que l'on voyait entre vos doigts dans les présentations de la série, eh bien, elle n'était pas factice. Mais votre création ne va pas tomber dans l'oubli. Elle aura marqué un nombre considérable de spectateurs, de scénaristes et de réalisateurs. En 1982, un auteur et un scénariste télé en devenir, Mark Scott Zikri, sort un ouvrage qui lui a pris 5 années de travail. Un ouvrage qui fera date et qui reste encore la référence ultime sur la série et établira un format repris par de nombreux autres auteurs. Le livre s'appelle The Twilight Zone Companion et dans sa première édition, il fait 450 pages.
J'ai commencé ce livre 2 ans après la mort de Rod Serling. J'ai interviewé 30 personnes qui travaillaient sur la série. J'en savais donc pas mal et j'ai rencontré la veuve de Rod Serling, Carol Serling, pour lui expliquer le type de livre que je voulais faire et elle m'a donné accès à tout ce que je voulais. J'ai passé du temps dans le grenier de Rod Serling, à lire tous ses dossiers, ses notes, ses agendas et j'ai ensuite interviewé près d'une centaine de gens. C'était le bon moment, car à l'exception de Serling et de Charles Beaumont et un réalisateur, Montgomery Pittman, qui était décédé, tous les autres étaient encore en vie. Acteurs, scénaristes, et cela m'a permis de reconstituer l'histoire de la série, ce qui serait impossible si je devais faire ce livre de nos jours.
En 1983, Steven Spielberg produit un film. Le film Twilight Zone. Joe Dante et George Miller réalisent des remakes à gros budget de quelques épisodes, là où John Landis en tourne un tout nouveau. Un tournage marqué cependant par un grave accident causant la mort de plusieurs personnes. En 1985, c'est une toute nouvelle série télé qui démarre. Explorant de nouveaux territoires que vous avez défrichés. Ça, ce sont les paroles de Phil Duggar, le producteur de cette nouvelle version de la Twilight Zone. William Friedkin, Shane Swartz, John Milius et Wes Craven seront quelques-uns des réalisateurs. Et Alan Ellison, George R.R. Martin et Rodney O'Bannon, parmi les talentueux scénaristes, apparaissent dans toutes ces nouvelles histoires des comédiens comme Bruce Willis, Martin Landau, Hélène Mirren, le tout avec un nouveau générique de Grateful Dead. C'est celui que vous entendez. Et en guise d'hommage, vous apparaissez même très brièvement pendant le générique. Ce remake durera 3 saisons. La dernière, elle est produite au Canada avec une toute nouvelle équipe dans le but d'augmenter le nombre total d'épisodes et de pouvoir vendre ensuite la série en rediffusion. En 1994, une attraction est ouverte à Disneyland, en Floride, la tour de la terreur de la Twilight Zone. Oh mais réellement, hein, à tel point qu'elle donnera même lieu à un téléfilm, Le Fantôme d'Halloween. La même année, Carol Serling, votre veuve, exhume un de vos scripts qui n'a pas été produit. Et avec une adaptation d'un de vos traitements par Richard Madson, va en faire un téléfilm qui s'appellera Twilight Zone, Rod Serling's Lost Classic. En 2002, vous découvrez qu'une autre Twilight Zone va s'ouvrir. Elle est présentée par Forest Whitaker et avec des remakes de quelques épisodes de votre crew au milieu d'autres totalement inédits. Cette 13e dimension, oui parce que le titre français donné à cette version fait référence au premier diffuseur en France de la série, la chaîne 13e rue, durera une seule saison. En 2011, Leonardo DiCaprio lance un projet de long métrage Twilight Zone qui n'est pas encore en production.
You're traveling through another dimension.
Et cette année, c'est Jordan Peele qui a créé et présenté de nouveaux épisodes de la série qu'on peut voir sur Canal+. Vous figurez même dans l'un d'entre eux. Et une deuxième saison est prévue. Votre création, donc, reste immortelle. Elle sera même bientôt disponible en coffret Blu-ray intégralement restauré d'après les 35 mm originaux. Voici le portrait d'un homme, Rod Serling. Un homme qui assuma et dispensa son talent des décennies durant, qui se rebella contre les règles et les restrictions. Un homme qui s'opposa au fait de ne faire de la télévision qu'un outil de distraction, mais qui parvint à distraire suffisamment ses opposants pour écrire et produire les histoires les plus brillantes, les plus inoubliables et les plus subtiles du petit écran. Un homme que l'angoisse et la nicotine auront emporté et qui ne plia que quand son corps se rebella lui aussi, l'entraînant à son tour dans la 4e dimension. La semaine prochaine, nous ouvrirons un dossier, le dossier de l'IMF, l'impossible mission force. Peut-être ferez-vous partie des agents de la force Mission Impossible. Ce podcast est à écouter sur les plateformes Deezer, Podcast Addict et Apple.